vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc aujourd'hui on propose une rencontre avec le groupe anarchiste communiste La Mouette Enragée qui est venu nous présenter le résultat de son enquête ouvrière entre 2017 et 2023 qui a été publiée aux éditions Acracy. Et donc en tant que groupe Courant Alternatif, le journal qui est sur la table de presse ici, on a une ligne anarchiste communiste et lutte de classe, ce qui fait que ça tombait sous le sens que nos camarades de La Mouette Enragée viennent nous présenter le résultat de leur travail qui s'attache à un portrait de la classe ouvrière d'aujourd'hui d'un point de vue anti-autoritaire. Il semblait évident qu'on s'inspire de leur travail pour notre investissement militant à nous.
Ouais, non, mais de toute manière, je vais répéter ce qu'a dit Sylvain, c'est à partir du réel, c'est-à-dire à partir de l'enquête ouvrière, La Mouette Enragée, donc à partir du présupposé de la centralité de la production et du travail, a tenté de définir la classe aujourd'hui. Alors, je voulais vous lire juste un petit passage du bouquin. La crise dont on nous rabat les oreilles tend de plus en plus à dévoiler son véritable caractère, celui d'une restructuration du capital et de ses méthodes d'exploitation. Peut-être que juste je rajouterais une dernière chose. Bon, mis à part l'ensemble des terrains, j'ai envie de dire, enfin des sujets qu'ils ont abordés dans leur bouquin, il y en a un qui m'a paru peu travaillé et qui me paraît important à faire, c'est la question de l'emprise managériale. Voilà, on leur laisse la parole.
On va présenter un peu le cheminement de ce qu'on a voulu faire avec l'enquête ouvrière. Bon, alors déjà, nous, La Mouette Enragée, on est un groupe de Boulogne-sur-Mer. On se définit comme mouvementiste et on s'inscrit dans la lutte des classes. Et c'est au sein des mouvements sociaux que, finalement, on se construit politiquement. Notre démarche, elle est ni universitaire, ni sociologique, ni... on n'est pas non plus un institut de sondage, quoi. Notre démarche, c'est bien celle de donner la parole à des gens qui, en général, ne l'apprennent pas. Ma foi, pourquoi ce bouquin ? C'est pas d'un seul coup, puisque ça nous a pris sur l'écran quand même. C'est parce que ben, depuis ces dernières décennies, on a constaté qu'il n'y avait que des luttes défensives pratiquement dans le milieu ouvrier, que la plupart du temps en plus elles étaient perdues, et que ça et là quand même, il y a des boîtes qui, sur des questions de boîtes plus généralement, bougent, ouvrent la possibilité des mouvements, et que ce sont peut-être ces gens-là qu'il s'agissait de rencontrer et de recueillir la parole.
Donc moi, j'ai plus vous parler de la construction de cette enquête. On n'est pas des universitaires, hein, donc on est des militants. Et donc, à partir de notre cible, donc c'était la classe. On n'est pas les seuls à parler de la classe. Hein. Si on regarde les universitaires, par exemple, on remarque qu'il y a quand même un retour de la classe dans les écrits. Alors, on parle de classe populaire. Nous, on parle de classe ouvrière. On a voulu revenir un peu à ce terme de classe ouvrière. Et aussi, on a aussi un retour du mot « classe ». Mais qui peut être vu comme, voilà, on parle parfois de classisme, etc., où ça devient une oppression, alors que, voilà, nous, on défend encore le fait que bah, la classe, c'est un rapport social, et c'est un rapport social qui se fixe par rapport au travail. C'est pas juste une catégorie qu'on peut additionner à d'autres catégories ou d'autres identités. On est revenu à la définition de base, qui est la définition de Karl Marx, qui est écrit donc, dans ses manuscrits en 1831-1833. Donc ça, c'est un peu notre définition qu'on se donne de la classe ouvrière. Donc ce sont celles et ceux qui effectuent un travail productif, c'est-à-dire un travail exploité, qui produit de la plus-value. Cette force de travail est échangée contre du capital et non contre du revenu. Donc on a voulu vraiment s'axer autour de cette création de richesse, de création de valeur. On s'est concentré essentiellement sur les salariés des entreprises privées. Ça a été un choix, parce que ben, eux, ils vendent leur force de travail directement par rapport au capital. Et par exemple, on ne parle pas de tout ce qui est fonctionnariat, puisque là, on est plus en référence aux revenus. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enquêter des services dits publics. Mais attention, les services dits publics sont aussi de plus en plus privatisés. On a tout notre chapitre 1, c'est sur la santé. Il y a des EHPAD, par exemple, des EHPAD publics, mais aussi des EHPAD privés. Donc voilà pour la définition de nous, ce que c'est pour nous la classe, donc classe ouvrière. Ensuite, au niveau du contenu du questionnaire, donc le contenu du questionnaire, on a aussi fait ce choix de centrer nos questions sur la production, les mécanismes de production, et pas de reproduction du capital. Et c'est vrai, ben, hier, dans la discussion qu'on avait eue à Mantes, on nous a dit, ben, vous ne posez pas de questions sur, notamment pour les femmes, la double journée de travail, etc., etc. Et c'est vrai que, voilà, on a fait ce choix dans notre questionnaire de ne parler que du travail et du process de production. Sachant qu'on n'est pas les seuls, attention, on n'est pas du tout novateur sur la question. Comme ça a été rappelé, ça existe. Et aujourd'hui, il y a des camarades, notamment, on peut citer nos camarades de Toulouse, le collectif Camarades, qui avait fait une enquête ouvrière avant la nôtre. On s'est inspiré pas mal de leur travail. Il y a aussi des gens de Rennes qui s'y intéressent. Donc nous, ça nous a amené à faire ce questionnaire. Donc on a la partie entreprise. Donc quelle est l'entreprise? Est-ce que c'est de la sous-traitance? Est-ce que c'est pas de la sous-traitance? Quelle est la moyenne d'âge des personnes qui travaillent avec toi? Quels sont les contrats de travail pratiqués, etc., etc. On arrive ensuite sur la deuxième thématique, qui est la thématique du travail. Donc en quoi consiste ton travail? Quelles sont les premières impressions? Le rapport à la machine et au robot? Et vous verrez, c'est intéressant au niveau des résultats. Est-ce que tu considères ton travail utile ou pas? Le temps de travail, la question de la thune, forcément, elle se pose. Donc le salaire, les primes. On a aussi une question sur les compensations non autorisées. Alors là-dessus, on verra dans les résultats, les gens, ils sont pas fous, hein, ils nous disent pas forcément qu'il y a des compensations non autorisées, et heureusement. La hiérarchie, donc là, on arrive, on parlait tout à l'heure du management, donc essayer de décortiquer toutes ces pratiques hiérarchiques. Les collègues, donc quelle est l'ambiance, est-ce qu'il y a des solidarités, etc., etc. Les risques du travail. Et enfin, on termine sur les luttes. Sachant que vous allez voir juste après, les luttes, ça a été aussi une entrée formidable dans l'échange avec les gens et l'enquête. Ce questionnaire, on l'a élaboré. Et maintenant, donc, je voulais vous parler de... Eh ben, la lutte, ça a été c'est une formidable porte d'entrée, en fait, parce que les gens, ils arrêtent le travail. Et on peut se poser, on peut discuter, voilà. Puis on peut, dans la discussion, dire, bah, au fait, on fait une enquête ouvrière, est-ce que ça te branche?
Et remplir le questionnaire ensemble.
Et remplir le questionnaire ensemble. Donc maintenant, je vais vous présenter les secteurs enquêtés. Il ne s'agit pas de faire un résumé vraiment de tout ce qu'on dit dans le livre. Le chapitre 1, c'est un peu sur tout ce qui est la santé. Parce que j'ai oublié de dire, en fait, on va enquêter nos secteurs de proximité. On n'est pas allé chercher très loin, on est sur des territoires. Donc il y a deux camarades ici, ils sont boulonnais. Moi, je suis lillois. Et Arthur, il est
en Bretagne à ce moment-là.
Voilà, Bretagne en ce moment-là. Et donc, on s'intéresse en fait à ce qui est dans notre proximité. Donc, à Boulogne, ça a été la santé, de la santé privée. Donc, on connaît des personnes qui travaillent dans les EHPAD. On connaît des personnes qui sont ambulanciers. On connaît des personnes qui sont aussi dans des cliniques privées. Et c'est aussi lié à l'économie grise qui se développe de plus en plus. La société vieillit. Je vieillis. Les centres d'appel sur la côte, c'est quelque chose qui a remplacé. Il faut savoir que dans le Boulonnais, il y avait toute une industrie lourde. Donc, il y avait des aciéries, etc. Tout ça a fermé et derrière, la bourgeoisie a mis en place du service, du tertiaire, notamment du centre d'appel, qui se sont développés à partir des années 2000. L'agroalimentaire, enfin, à Boulogne-sur-Mer, très important. Boulogne-sur-Mer étant le premier pôle européen de transformation du poisson. C'est pas forcément du poisson qui vient en bateau. Le poisson, il vient par camion, essentiellement. Mais tout est transformé, voilà, Findus, tout ça, c'est à Boulogne. À Lille, là où j'habite, c'est plutôt la logistique. Je me suis concentré sur la logistique. Il y a la Belgique, les Pays-Bas, enfin, on est une plaque tournante. Donc on a des gros entrepôts logistiques. Donc j'ai pu interroger des gens de la Redoute à l'issue d'une lutte. En fait, je suis allé par solidarité, puis camaraderie et mouvementisme aussi, on disait tout à l'heure, voir ces gens. Et puis j'ai gardé contact et j'ai pu faire l'enquête avec eux. Il y a les filles de Verbaudet qui se sont battues en 2023. Il y a Amazon aussi. Donc j'ai eu des contacts via le syndicat Sud Amazon, qui avait fait une lutte pendant le confinement. Et enfin, Routier. Alors le Routier, c'est mon cousin. Et en Bretagne, Arthur ?
Et en Bretagne, moi, quand j'étais en Bretagne, donc c'est au moment où on faisait tout ce travail-là, je suis parti dans le Finistère. Et donc, il y a deux secteurs qu'on bouge quand même beaucoup en Bretagne. Le principal, c'est vraiment l'agroalimentaire. Plus de 70 000 salariés et avec un gros recours à l'intérim. Là, en l'occurrence, dans le livre, c'est un échange avec une copine qui se retrouve, qui était infirmière de formation, qui a fait un burn-out et qui se retrouve à aller faire des petits boulots à gauche, à droite et qui découvre l'intérim dans une conserverie de sardines à Douarnenez. Donc c'est un peu à la mode vu que c'est le centenaire de la grève des sardinières. Elle explique vraiment comment elle en arrive là et comment ça se passe à l'intérieur de l'usine. Et puis la construction navale. C'est aussi un gros secteur d'embauche en Bretagne. Alors on imagine, on construit des bateaux en bois. Globalement, c'est surtout la grosse construction à l'époxy et au polyester, des produits très très sains pour la santé. Et là aussi, un gros recours à l'intérim parce qu'il y a un gros turnover, parce que les gens qui travaillent là-dedans ont l'impression de perdre des points de vie assez rapidement à chaque journée de travail qu'ils font.
Notre grosse conclusion, c'est qu'il faut faut en finir avec la figure de l'ouvrier dans le secondaire, dans l'industrie. Il y a eu la désindustrialisation, les industries ne reviendront pas. Et donc la nouvelle figure, c'est celle de l'ouvrier, ouvrière du tertiaire qui s'impose. Avec donc plein de spécificités liées à chaque métier, bien évidemment, mais aussi des caractéristiques communes. Rapidement, même si on est dans des petites boîtes, des PME par exemple, on est toujours dans un système de concentration et de transnationalisation où finalement on se rend compte que si on fait l'organigramme, on se retrouve bien souvent dans des concentrations plus grosses capitalistes. Donc ça peut être 300 établissements par exemple de la santé sont rattachés à 5 grands fonds d'investissement en France. Dans la logistique, alors c'est encore plus Amazon, voilà, c'est un exemple, mais ça peut être Verbaudet. Verbaudet, ça a été racheté en LBO par des financiers dont je crois un fils à Fillon. L'exploitation au travail, c'est pas une surprise, mais elle est accrue, notamment parce qu'aussi on est dans du service. Donc le service, ça fait pas beaucoup de plus-value, le service. Donc il faut bourriner encore plus sur l'exploitation au travail. C'est la rationalisation qui est due notamment à la rigueur salariale. Dans la santé, on a tous entendu parler des gens qui n'ont pas le temps de faire les pansements parce qu'en fait, ils sont pas assez de personnel, il faut y aller. Et la mécanisation qui accélère les rythmes de travail. Mais sur la mécanisation, on a aussi un chapitre, je crois que c'est sueur froide sur machine, où en fait on se rend compte que la machine souvent elle tombe en panne. Le capital n'investit pas non plus dans des machines de ouf, la logistique, ils préfèrent faire gambader les gens dans des hangars plutôt que faire des machines. Et ça c'est quelque chose aussi, parfois on entend un peu la machine va remplacer le travail humain, nous on n'y croit pas trop. Donc les salaires à ras les pâquerettes avec souvent la norme c'est le SMIC, et puis il y a aussi l'histoire de l'intérim.
Ouais, sur les histoires d'intérim, c'est assez ambivalent. Il y a quand même des réponses, des gens qui disent « moi, je veux rester dans l'intérim parce que il y a les primes de fin de contrat, il y a pas mal d'avantages, et puis on n'est pas attaché à une entreprise, on passe d'une entreprise à une autre. » Et par ailleurs, il y a des réponses. En fait, c'est bien l'intérim. Mais le jour où je veux avoir, j'ai un projet de vie personnel, en fait, avec l'intérim, je peux pas vraiment le faire, le mettre en place. Parce que de toute façon, les banques ne prêtent pas quand tu es en intérim. Déjà qu'elles prêtent pas beaucoup.
Histoire de rapport au travail, est-ce que ceux qui choisissent l'intérim ou ceux qui ne le veulent pas, est-ce qu'il y a un facteur âge qui intervient? Est-ce que c'est plutôt les gens qui sont plutôt jeunes et qui ne travaillent pas depuis longtemps qui disent qu'ils sont pour l'intérim? Est-ce que ceux qui sont plus âgés disent au contraire
Oui, c'est essentiellement des jeunes qui sont en intérim. Aussi parce qu'on ne leur laisse pas beaucoup de choix. Quand tu arrives sur le marché du travail et que tu ne sais pas trop quoi faire, le réflexe facile, c'est je vais voir la boîte d'intérim du quartier et puis ils m'envoient faire ceci une fois. Et puis il y en a qui voient ça aussi comme une façon de prendre de l'expérience dans différents secteurs. Ils vont faire un peu en agroalimentaire, un peu dans le bâtiment, un peu voilà. En soi, c'est pas très bien payé, mais quand tu ajoutes les primes de fin de contrat d'intérim, finalement, tu t'en sors pas trop mal. Mais oui, c'est vraiment. La question d'âge est vraiment présente par rapport à la question de l'intérim.
Après, si je peux me permettre, il y a toujours une ambivalence. Par exemple, on a remarqué, moi, quand j'ai enquêté auprès de Amazon, par exemple, ou dans la logistique, l'intérimaire, c'est la variable d'ajustement quand il y a les coups de bourre. Le Black Friday, les fêtes, etc. Mais il y a un recours vraiment plus en plus courant au CDI. Par exemple, quand vous êtes à Amazon, directement, ils vous proposent un CDI. Alors qu'Amazon, c'est l'exemple du turnover. Il y a un turnover de malade chez Amazon. Mais pourquoi ils proposent un CDI? Parce que c'est moins cher, en fait, pour eux. Il n'y a pas les primes. Et puis, quand on rompt un CDI, il y a plus de choses qui les arrangent, en fait. Chez Lidl aussi, etc. Et la corollaire, c'est le management et la surveillance. Et je terminerai là-dessus, la hiérarchie. En fait, chez Amazon, donc la hiérarchie est très, très présente. Il y a des gens qui peuvent contrôler si vous prenez bien une rambarde pour ne pas vous casser la gueule, etc. Enfin, la sécurité à fond. Et aussi, il y a un système de délation. Ils incitent les gens à se balancer les uns les autres. Et ils vous font remplir directement un CERFA. Donc c'est un truc hyper officiel, hyper légal, et ils cherchent pas à comprendre s'il y a une embrouille entre deux salariés, c'est dehors les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu, voilà, c'est, ils se font pas chier, ils virent les personnes assez facilement pour faute grave, c'est quelque chose qui est très courant. En tout cas, moi j'ai enquêté au niveau de Douai, où il y a une plateforme Amazon, ça dégage rapidement.
Chauffer, frapper de tous côtés, le contre me disait l'usine, je veux pas y retourner, non, non, c'est pas le moment de traîner, je fonce dans la mêlée, l'usine, je ne veux pas y retourner, l'usine, je ne veux pas y travailler. Syndicat est venu pour causer. Déconnez pas les gars, faut défendre votre métier. L'usine, ce qu'on veut c'est la casser. Après deux, trois boulons, le ton avait changé. Ce fut la dernière heure d'un pauvre racketteur. Les moutons enragés ont brouté leur berger. Syndicat, ce qu'il veut c'est s'incruster. On l'a collé dans le tour pour en faire une lampe de chien. Hey, attable. We'll be right back. planter quelque part à Saint-Tropez. Ça tombe bien justement, on va faire une virée. Ça tombe. Ça va faire un bon brasier. Cela s'en va payer, voilà du beau congé. Cela s'en va payer, voilà des vrais congés. Ah non, cela s'en va payer, voilà des vrais congés.
Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes en train d'écouter la présentation du livre Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l'atelier, une enquête ouvrière réalisée par le groupe La Mouette Enragée aux éditions Acracy.
Bon, moi j'ai conclu sur les perspectives, les enseignements qu'on tire un petit peu de tout ça, l'arrière-fond politique en termes de composition de classe et de contenu de classe. Alors ben, notre point de départ, c'est l'effacement de la figure ouvrière des grosses concentrations industrielles depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors notre terrain de jeu, là où on a enquêté, bon, on l'a dit, c'est le Nord-Pas-de-Calais, tout le bassin du Nord-Pas-de-Calais essentiellement, un peu la Bretagne, etc. Je pense que tout le monde connaît l'histoire, hein, fermeture des mines, liquidation de la sidérurgie, liquidation des chantiers navals, liquidation de centaines d'entreprises de production manufacturière, bon, sous le coup des restructurations, des localisations, enfin en gros ce qu'on appelait la désindustrialisation. Ça c'est ces 30-40 dernières années. Pour se faire un petit point quand même sur ces 30-40 dernières années, on a pris l'année 75, qui est un peu l'année pique avant la descente jusqu'à aujourd'hui. En 1975, la CGT, qui est bon, l'espèce de pivot du mouvement ouvrier en France, c'est encore 2 400 000 adhérents. Aujourd'hui, au mieux, c'est 700 000 adhérents. 1975, même si les modalités de comptage ont changé, c'est 4 millions de journées de grève en 1975. 2020-2024, au mieux, on est entre 200 000 et 300 000 journées de grève. Il y a véritablement un changement d'époque, changement de période. Quelques chiffres encore vite fait. Hein. Modification de la composition du salariat sur une trentaine d'années. Chiffre INSEE. Alors on peut discuter de l'INSEE. Les ouvriers sont passés de 30% de la population active à 19% de la population active. Les employés demeurent stables autour de 22%. Les professions intermédiaires, alors ça c'est le genre de truc fourre-tout de l'INSEE. Alors dedans on met les infirmières, les instits, enfin je suppose que ce que certains appellent sans doute les classes moyennes. Sont passés de 19 à 24% de la population active et, ce qui nous semble quand même le point le plus marquant et intéressant, les cadres. En 30 ans, la population de cadres a été multipliée par 3. Le nombre de cadres en France est passé de 8% à 22% de la population active. Bon, nous, ce qu'on en pense, c'est qu'effectivement, il y a effacement de cette figure de l'ouvrier des grosses concentrations, mais qu'à mesure que cette figure-là s'efface, la condition ouvrière, elle, s'est généralisée. Elle s'est étendue à d'autres secteurs du salariat qui pensait sans doute pouvoir y échapper, mais qui n'y échappe pas. Dans un contexte et conditions très dégradées, parcellisation, atomisation, individualisation, tout ce qu'on veut, enfin on connaît tout ça, quoi. Et on pense que bah, c'est peut-être ce qui est à l'origine de toute la production d'un discours chez les sociologues. Je sais pas, moi je pense à Daniel Linhart, Christophe Dejour, tout ça. Et ce qui nous scotche, c'est que ces gens-là parlent tout d'un coup de souffrance au travail, quoi. Comme si c'était une nouveauté, la souffrance au travail. C'est vraiment parce qu'il y a des pans du salariat qui se font cartonner comme ils ne se faisaient pas cartonner avant, qu'effectivement, tout d'un coup, cette problématique de souffrance au travail arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors bon, justement, pour alimenter ça et un petit peu retour d'enquête, ben, par exemple, t'as une soignante, alors c'est pas les mêmes que celles qui témoignent, mais qui nous disent, on a l'impression de travailler en usine. Hein, maintenant, les EHPAD, c'est du travail d'usine. On est devenu une usine humaine. Alors, le bilan qu'on en tire, c'est aussi un bilan politique, hein, effacement de l'ouvrier fordiste et puis aussi coût au programme politique qui était le sien. Programme politique du mouvement ouvrier, bon, depuis le programme de Gotha, c'est à peu près le même. Donc, montée en puissance de la classe hein, au travers de ces institutions de masse, partis et syndicats. Bon, on a vu ce qu'il en est, ben, par exemple, de la CGT aujourd'hui en France. L'affirmation du travail et le développement des forces productives, bah, je pense que vu toutes les problématiques qu'il y a autour du climat, du machin, etc., enfin, je veux dire, le développement des forces productives, on pourra en parler et le questionner quand même. Et la généralisation de la condition prolétarienne à l'ensemble de la société, bah, j'ai l'impression que c'est plutôt le capital qui est en train de s'en charger, quoi. Cet effacement a eu aussi des conséquences hein, qui ont entraîné, alors ça c'est à mon avis aussi à questionner, surtout en ce moment, destruction du sentiment d'appartenance de classe hein, et des solidarités qui s'y rattachent, abandon d'une visée universelle et repli sur des identités toutes plus individuelles que les unes. Alors là c'est la foire aux identités, avec l'embarras du choix, en identité de consommation, de territoire, tout ce qu'on veut. Alors à partir de cette défaite, à partir des années 80, quoi, la bourgeoisie pense qu'elle a gagné, elle va échafauder tout un discours.
qui va être repris par ses médias, ses universitaires, une partie de la gauche, une partie du monde syndical aussi, et qui affirme que ben voilà, la classe ouvrière a disparu, le mouvement ouvrier est mort, et c'est même la fin d'histoire, quoi, avec un grand H, quoi. Alors nous, ben, on pense que c'est un vieux fantasme. Hein. Alors quand on a fouillé un petit peu, Engels disait déjà en 1884, la bourgeoisie veut la bourgeoisie, mais sans le prolétariat. Aujourd'hui, ça a les échos, hein. Elon Musk qui veut des usines sans ouvriers, etc., etc. Bien, on pense que c'est un discours qu'il faut cartonner aussi, parce qu'on pense que c'est un fantasme. Le capital, c'est un rapport social, hein. C'est une application réciproque des classes entre elles, et tu ne peux pas avoir la bourgeoisie sans le prolétariat et vice-versa, quoi. Donc la question qui se pose aujourd'hui à nous, s'il s'agit de repenser une dynamique de classe, ben, on pense que ça ne peut se faire qu'à partir de la composition de classe d'aujourd'hui. Alors, on ne pense pas du tout, malgré tout ce qui se raconte, que la bourgeoisie va réindustrialiser la France. Comme on disait à Boulogne, les patrons ne vont pas reconstruire les aciéries sur le port. Hein. C'est fini cette histoire-là, quoi. Donc qu'est-ce qu'on garde comme outils, malgré tout, qui peuvent nous permettre de penser et d'agir sur la période? Premier point qu'on garde, c'est la centralité de la classe. Centralité de la classe au sens où le définissait Tronti, savoir que sans classe ouvrière, pas de politique. Voilà, tout simplement. Ou alors si tu as une politique, c'est celle de la bourgeoisie, c'est laquelle dans laquelle on baigne jusqu'au cou en ce moment, quoi. Donc à partir du moment où la classe ouvrière se met pas en mouvement, elle bouge pas, on pense qu'il y a rien de fondamental politiquement qui est possible, et surtout aucune rupture avec le capitalisme qui est envisageable. Deuxième point qu'on garde, c'est le point de vue ouvrier, c'est-à-dire le contenu politique de cette composition de classe et de cette hypothétique de nouvelle composition de classe. Donc on pense que ça peut plus être l'affirmation du travail, on pense que ça peut surtout être son contraire, c'est-à-dire la critique radicale du travail. Alors, critique radicale du travail qui existait déjà lors de la période précédente, enfin en France, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, au travers de pratiques d'insubordination qu'on connaît tous, hein, sabotage, absentéisme, séquestration des cadres, appropriation et relance de la production au profit des ouvriers eux-mêmes, genre libre et tout ça, quoi qu'on en pense. On pense que dans la pratique, ça a largement disparu. Par contre, il y a un sentiment de mise à distance du travail, quoi. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est vécu, nous, c'est le retour d'enquête, très personnellement. Il y a une forme implicite de critique du travail, mais qui ne correspond pas du tout à des pratiques collectives affirmées, revendiquées de cartonnage du travail, quoi. Alors, par exemple, retour d'enquête, c'est les salariés des plateformes d'appel, hein, qui nous disent que le travail qu'ils font ne leur est utile en rien et n'est utile en rien. D'autres qui concluent que le travail n'est tout simplement pas faisable ou plus faisable. D'autres qui luttent contre la déqualification croissante de leur travail. Alors, tout ça, c'est dans le milieu du soin. Et un bon nombre qui se considèrent totalement remplaçables. Alors ça, c'est plutôt plateforme d'appel, Amazon et compagnie. Alors, mais aussi pendant les luttes. Alors par exemple, grève en EHPAD, là, retour d'enquête. La plupart des grévistes ne sont pas venus sur le piquet de grève. Il n'était pas question de revenir sur le lieu de travail pour quelque raison que ce soit. Alors là aussi, à titre très individuel et personnel, des témoignages de travailleurs de la logistique qui disent se mettre en grève individuellement pour ne pas aller travailler ou pour justifier de retard. Enfin, le point de vue de la bourgeoisie. Alors bon, c'est pas le point de vue de la bourgeoisie, comme on le disait hier, c'est un point de vue de la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle est segmentée, hein, elle est comme le prolétariat. C'est un institut qui fait des enquêtes, eux aussi. Hein, mais alors, ils sont payés pour ça. À l'échelle européenne, l'Institut Gallup de recherche en sources humaines qui concluait en 2022 que moins de 2 salariés européens sur 10 se sentent engagés au travail. Donc on pense qu'il y a une certaine forme de critique latente quand même, comme on l'a dit, mais elle est très individuelle, très personnelle, elle ne débouche pas sur des pratiques collectives de remise en question et d'interrogation de critique du travail. Travailler, 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 pour avoir de la valeur dans la société. Let it go.
Je vais enregistrer s'il y a des gens qui veulent pas, ils me disent c'est pour l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Nous, on fait la même chose, mais version radiophonique.
Vous abordez quand même un certain nombre de luttes ou de gens qui, comme vous l'avez dit là, ont été rencontrés dans le cadre de luttes, dans les questions et dans les récits. La lutte est quand même assez importante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces luttes-là et notamment aussi en lien avec la question du sentiment d'appartenance collectif et de sa réémergence potentielle ou pas, justement, dans des moments de lutte?
Sur la logistique, moi, ça a été ma porte d'entrée, ça a été la lutte. Donc c'était les gens de la Redoute. La Redoute, en 2014, c'était une restructuration totale de la logistique. Donc c'était Pinault, à l'époque, qui était patron de la Redoute. Il veut se débarrasser d'un gros pendant ouvrier de la Redoute. Pour le coup, il avait fait le choix de la mécanisation. Donc il y a une section CFDT, et donc c'est les redoutables. Donc c'est des gens qui s'autonomisent par rapport au syndicat et qui mènent une lutte. Et donc l'entrée dans cette lutte-là, en fait, c'est des gens qui manifestent à Lille. Donc on rejoint les cortèges, on discute avec des camarades, on soutient la lutte. Et souvent, la lutte, c'est aussi autour des NAO. Les NAO, donc ces négociations annuelles, c'est aussi toujours un moment où, même si Xavier l'a dit, il y a quand même une chute des jours de grève, on a quand même à chaque fois des petites tensions autour des NAO. Et Verbaudet, c'est typiquement ça. Les ouvrières réclament 150 euros en plus, on leur refuse. Il y a une toute petite section CGT qui est toute naissante. Ils se mettent tous à la CGT et ils disent non, nous on veut 150 balles et puis on fera le piquet. Elles ont tenu 80 jours. Donc 80 ouvrières qui tiennent 80 jours le piquet de grève. Et Amazon, la lutte c'était pendant le Covid. En fait, Amazon voulait continuer à ouvrir. Il y avait le confinement, donc on pouvait vendre les denrées alimentaires mais pas les autres denrées. Donc c'était le bordel parce qu'Amazon, ils font les deux, ils font tout, hein, ils font aussi de la bouffe. Le syndicat Sud, pour le coup, était hyper au taquet en disant non, en fait, on n'ouvrira pas. C'est une lutte qui a fait parler d'elle à Lille et aussi ça a été une entrée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en disant ça. Mais ouais, les luttes, en tout cas, c'est un super moment pour l'enquête.
Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans votre présentation. Le sentiment d'appartenance, ce que j'ai pu constater, je parle en partie de mes expériences dans l'Italie des années 70 et de ce que j'ai vécu dans la décennie où on a monté des collectifs de solidarité sur Paris et la région parisienne. L'appartenance n'est pas quelque chose qui est donné a priori. Elle se manifeste surtout dans des moments d'action collective. Et c'est à partir de l'action collective qu'on retrouve ces sentiments d'appartenance et donc la possibilité de faire des choses ensemble qui s'auto-alimentent en quelque sorte. Ensuite, pour ce qui est de la détermination de ce que tu disais en termes de division sociologique, ouvrier, intermédiaire et cadre, ça c'est une vieille détermination qui remonte à la sociologie américaine des années 60, où le but était toujours de démontrer qu'il y avait très peu d'ouvriers et qu'il y avait des gens qui se sentaient quelque part, sinon satisfaits du moment, du moins intégrés dans l'organisation du travail. Et si on regarde de plus près, on s'aperçoit déjà que les intermédiaires sont des prolétaires comme les autres, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Les ouvriers, là, il n'y a pas grand-chose à chercher, ils sont des ouvriers. Et ce qu'on a appelé les cadres, souvent en France, c'est une catégorie qui a servi souvent pour casser les horaires, le début et la fin du travail, et favoriser une forme de disponibilité au travail, en donnant une forme de, entre guillemets, de promotion, d'identité un peu plus qu'intermédiaire, mais dans la réalité des choses, on s'aperçoit que souvent les cadres, c'est ou bien des employés qui font un travail plus ou moins chiant comme tous les autres. Pour ce qui est de l'utilisation des CDI, moi j'ai pu la constater dans d'autres secteurs comme la restauration rapide. McDo, par exemple, faisait, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais faisait systématiquement des CDI parce que ça permettait d'éviter les primes de précarité et de toute façon, ça ne réduisait pas le turnover parce que les gens partaient d'eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ne tenaient pas le coup. Au bout d'un moment, comme souvent ils utilisaient des lycéens ou des étudiants, bah, au bout d'un moment, il fallait qu'ils décident s'ils allaient entamer une carrière, entre guillemets, à l'intérieur de la boîte ou s'ils continuaient leurs études. Il y a une chose qui m'a frappé dans votre présentation, c'est, comment dire, la façon de procéder à l'enquête. Le but de l'enquête, tel que je l'ai connu dans l'Italie des années 70, était l'identification des points faibles de l'organisation du travail pour pouvoir s'engouffrer dedans et alimenter des formes de regroupement et de lutte, de grève, de formes diverses et variées. Bon. C'est à partir de certains moments de lutte où les personnes directement concernées arrivaient à se mettre en grève, plus ou moins, ou en tout cas elles en avaient envie. Et à partir de ce moment-là, on essayait de regarder ensemble quels étaient les points faibles de l'organisation du travail pour s'engouffrer dedans. Je fais un exemple tout bête. On s'est retrouvé avec des femmes des ménages dans les boîtes de sous-traitance. Au début, on avait commencé, comme à l'époque de la grève d'arcade, à faire des descentes dans les hôtels. Et ce sont les femmes de ménage qui nous ont dit bah, « c'est pas la peine d'y aller tous les jours, parce que tous les jours, il n'y a pas forcément des clients. Il y a deux moments particuliers où les clients sont présents et donc on peut multiplier l'effet de la présence de appelons les piquets ou des groupes qui interviennent. C'était le lundi matin au moment du départ, entre 6h, 7h, 8h au maximum, et le vendredi soir quand ils arrivaient. Et donc c'est à ce moment-là qu'on avait le plus d'effets concrets sur les responsables des hôtels. Et là aussi, au début, on avait commencé à faire des choses, comment dire, bruyantes, classiques de n'importe quel piquet de grève. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'il fallait trouver le moyen de faire en sorte que les clients ne soient pas nos adversaires, mais plutôt les alliés des femmes en grève. Et donc, on a commencé à utiliser, par exemple, des cartes postales qu'on distribuait aux clients en leur demandant de les envoyer aux directions des différents hôtels et qui leur arrivaient des quatre coins du monde. Et comme la grève en question avait duré un an, bah, finalement, on s'est aperçu que à l'intérieur d'Accor, qui était le donneur d'ordre, bah, ils avaient ouvert un bureau qui était censé traiter les cartes qui arrivaient pour essayer de répondre en expliquant que finalement c'était magnifique, etc.
L'Italien disait, nous on mène des enquêtes à chaud. Je veux dire, la situation est absolument incomparable. C'est justement le descriptif qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, et une branlée incroyable que s'est pris la classe ouvrière concentrée, massifiée dans les gros centres industriels. C'est plus prolétariat là, quoi, du tout. Donc nous, si on fait une enquête actuellement, c'est plutôt une enquête au pôle Nord, quoi. Hein. Par contre, je suis complètement d'accord. Hein. Mais même les gens des Quai Hennemey disaient qu'ils avaient, cet objectif-là, et le bilan qu'ils tiraient 30 ou 40 ans après, c'était que c'était très compliqué. Et essayer de répertorier les points faibles pour essayer justement d'intervenir là où ça fait mal et d'avoir un rapport de force favorable. Nous, l'enquête, c'est justement pour remettre la question justement du travail au centre. Puisque bah, j'ai l'impression que pour pas céder à l'urgence, parce qu'on a l'impression que tout le monde cède à l'urgence, de l'antifascisme, du climat, du tout ce que tu veux. Et nous, ben bah, non, la lutte des classes, quoi. Voilà. Et c'est surtout ça. Mais on est d'accord.
Aujourd'hui j'en ai 50, pourtant nous ne sommes plus puissants. La main d'œuvre est devenue chère face aux nouvelles puissances. Et les mondialistes débarquèrent comme une nouvelle nuisance. Mauvaise nuit en perspective, en surlétique. Me relever autant combler le vide d'un frigidaire squelettique. Je suis dans un sale état, l'argent n'a pas d'éthique. J'en veux beaucoup à l'État et toutes ces promesses politiques. Moi j'avais dit non à l'Europe, ils ont pris ça pour un oui ou pour un non. Je m'énerve, être positif j'ai pas envie. Ils veulent délocaliser pour être plus compétitif. Je commence à m'alcooliser, éterniser la péripétie. Je ne veux plus faire face à la vie, ma machine à Varsovie. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire face à l'Asie. Le malheur des uns fait-il le bonheur des Chinois? Non, pas 12 heures par jour et 30 euros par mois. Écoute le silence de mon licenciement vide, immense, 30 années dans ce bâtiment de ciment. La machine s'est arrêtée, c'était la dernière fois. J'enlève mes gants, mes chaussures de sécurité. Écoute le silence de mon licenciement vide, immense, 30 années dans ce bâtiment de ciment. La machine s'est arrêtée, c'était la dernière fois. J'enlève mes gants, mes chaussures de sécurité une dernière fois.
Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes en train d'écouter la présentation du livre « Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l'atelier », une enquête ouvrière réalisée par le groupe La Mouette Enragée aux éditions Acracy.
Là, on commence à approcher la question que moi je me posais en écoutant. Je vous remercie d'abord parce que... Alors, je connais assez bien, ou j'ai connu assez bien Angry Workers, Colin Cohen Poe, parce que eux, leur objectif était quand même... Angry Workers, c'est un objectif qui est quand même, il me semble, un peu différent. Ils ont mené les enquêtes ouvrières, mais c'est surtout avec l'intention, plus ou moins ouvertement, de créer une organisation. Et donc, je voudrais savoir, vous, puisqu'il a été question des modèles précédents, vous, comment vous vous situez par rapport à cette question-là?
L'objectif n'est pas vraiment de créer une organisation au sens où ça peut s'entendre politiquement. L'idée, c'est au travers d'un échange et d'un constat que les conditions de travail et des conditions d'être ouvrier aujourd'hui, où qu'on soit, il y a des passerelles, il y a des points communs, et il y a des souffrances communes, mais aussi des possibilités de lutte communes. Et qu'à partir de là, à travers la circulation et le partage d'expériences et de témoignages, ça peut peut-être amener, sinon une conscience de classe ou des choses comme ça, mais, ou une recomposition de classe, c'est de reconstruire quelque chose qui puisse faire de la lutte ensemble. Les lieux où peuvent se retrouver les gens maintenant pour construire quelque chose d'un peu combatif a été disloqué par le capital. C'est-à-dire que dans les boîtes, on a décalé les temps de pause, on s'est arrangé pour que les gens mangent plus ensemble et des choses comme ça. Ce qui fait alors que les endroits où justement ça discute politique, ça discute boulot, ça discute lutte, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en temps de grève on fait des AG. C'est effectivement de repenser cette question de classe sociale et d'ouvrier. L'ouvrier n'étant plus forcément quelqu'un derrière une machine, mais qui peut être derrière un ordinateur, choses comme ça. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le prolétariat. Quoi. Je veux dire, un instit, c'est un prolétaire, qu'on veuille ou non. On ajoute toujours que ce bouquin, c'est pas quelque chose d'abouti. Hein. C'est un point d'étape pour lancer des pistes. Mais je pense qu'il y a des bonnes questions et des réponses variées.
Il y a des secteurs entiers de la classe ouvrière, du prolétariat, qu'on ne voit pas dans les luttes, tu vois, ou alors effectivement on les voit seulement au moment des NAO. Quelle est la géographie maintenant de la production et la distribution? On pense que le capital est transnationalisé, c'est qu'auparavant, quand tu avais un marché national avec une production nationale, une distribution nationale, les accords se faisaient au niveau de l'État-nation, quoi, avec des accords de branche qui étaient généralisés à l'ensemble des... Bon, là, c'est fini. Chaque bourgeoisie nationale distribue de moins en moins sur son territoire national. Alors l'État a ratifié ça, c'est ce qui s'est passé avec la loi travail, c'est-à-dire que maintenant les négociations vont se faire à l'échelle de l'entreprise. Et ce qui sera à l'échelle de l'entreprise ne se généralisera pas forcément au niveau de la branche, etc. etc. On est dans ce rapport-là, ça a des effets sur les luttes. Donc ce qui fait qu'effectivement, quand tu as des mobilisations, tu vois essentiellement soit les grosses boîtes privées et sinon les gros secteurs qui restent du secteur public. Quoi. Mais nous, il y a plein de boîtes qu'on ne voit jamais. Alors que par contre, sur les NAO, ils bougent. Donc là, il y a quand même une articulation qui fait des questions à se poser. C'est pas forcément des gens qui luttent pas. Mais tu les vois pas sur certains modes de mobilisation où tu te dis ça peut être plus facile, ben ils sont pas là. Ou ils vont venir, ils vont envoyer 3 délégués, la manif. Là, il y a vraiment des questions de fond à traiter, quoi. Enfin,
nous qui avons envie, en tous les cas, qui ressentons le besoin d'agir politiquement avec la classe ouvrière, qui sommes-nous, nous, en fait? D'où est-ce qu'on parle, nous? D'où est-ce qu'on agit? Soit on a un refus du travail qui est quelque chose d'un peu romantique, un peu esthétique, qui s'entend, hein, qui se comprend, hein, qui peut aussi s'expliquer sociologiquement, hein, parce qu'on n'a pas besoin de travailler. Soit on va travailler, mais dans des cadres un peu normés, légèrement protégés, type profession à statut. Évidemment, c'est pas pour rien qu'on rencontrait les grands militants gauchistes à la Poste, à la SNCF, etc., etc. Mais renvoyons la question à nous, en fait. Qui on est ? Deuxième remarque, je sais pas si vous le mettez à l'intérieur, moi j'ai été frappé par rapport à mes débuts au boulot et l'actualité au boulot, c'est par l'intensification du taf et l'encadrement de plus en plus disciplinaire du taf. C'est-à-dire qu'avant, tu avais toujours des échappatoires, toujours. Tu pouvais gratter, te barrer. Alors, c'est pas innocent aussi que c'était des tafs en usine où il y avait des collectifs de travail et donc, en termes de contrôle, c'est plus difficile. Mais l'encadrement et l'intensification, elle est vraiment de plus en plus forte. J'explique, je travaille en milieu viticole. On a eu un découpage du travail, une mécanisation du travail. Il y a de moins en moins de travaux manuels, mais des travaux qui sont électrifiés, mécanisés, donc on nous demande de faire plus. Dans la région où je bosse, principalement, l'année dernière, il y a eu 4 morts en 5 jours, parce qu'on a demandé à travailler des gens à plus de 36 degrés pendant les vendanges. Il y a eu d'autres types de décès, mais dans des circonstances un peu plus hardes. Et du coup, ça entraîne des phénomènes massifs d'intoxication aux psychotropes, aux stupéfiants et aux médicaments. Alors, faut pas non plus être naïf. Avant, il y avait la picole. Mais quand même, c'est pas pareil de picoler plutôt que de prendre de la kétamine pour aller bosser. Et en plus, c'est quelque chose qui est intégré chez le patron. Je donne un exemple. Du côté de Chinon, en Val-de-Loire, pour bosser pendant les vendanges dans le raisin, le chef d'équipe a fait une mini-overdose à la kétamine. Le propriétaire du domaine a dit « Oh, appelez pas les pompiers, c'est pas la peine, on va gérer, c'est bon. Il peut se reposer demain, il reviendra. » Donc ça, c'est aussi des choses qui sont totalement intégrées. C'est normal de prendre de la cam. C'est normal d'être mort à la fin de la journée. C'est pas normal de se révolter et c'est normal de se faire du mal à soi et pas de faire du mal au patron.
On se focalise sur la lutte, mais les luttes, en fait, ça se prépare avant. Et c'est en temps de paix qu'il faut la préparer. Ouais. En temps de guerre, c'est trop tard. Moi, je voulais donner l'exemple d'un travail qu'on a essayé de mener avec les travailleurs saisonniers dans l'agriculture. Il se trouve dans le collectif où je suis. Ça fait 3-4 ans maintenant, parce que systématiquement, au mois d'octobre, novembre, on reçoit des questions de la part de saisonniers qui disent « Ah ben le patron, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit pour le contrat, il nous a arnaqué sur le contrat. » Mais sauf que c'est trop tard. C'est trop tard parce que les gars nous contactent systématiquement après la saison. Et donc on ne peut plus intervenir. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un travail, on a fait un petit guide du droit des salariés saisonniers avec l'idée de diffuser ce guide minimum de droit avant la saison. Et on travaille avec l'éco-saisonnier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit collectif de travailleurs saisonniers dans le sud-ouest. Donc ce guide, on l'a traduit en arabe, on l'a traduit en espagnol, parce qu'il y a aussi beaucoup d'immigrés, etc. Et l'idée, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire ce travail de diffusion de cette info, de façon à ce que quand les gars ils vont rentrer en saison, c'est-à-dire à partir d'avril, mai, bah, ils aient déjà entendu parler du truc, de façon à ce que dès le début, ils aient des réflexes. On revient à la question du rapport de force, t'en parlais tout à l'heure. Quand t'es saisonnier, le rapport de force, c'est au début. C'est-à-dire que c'est au début des vendanges. Si tu dis, bah, moi, je vendange pas et ton raisin, il va pourrir, là, le patron, il a la trouille. Si c'est la fin, c'est fini. Donc, il y a toute cette culture à créer et ça se crée pas en temps de guerre. D'où l'intérêt d'avoir des lieux aussi, et pas que des lieux virtuels sur Internet, mais des lieux physiques pour pouvoir recréer cette culture. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Alors moi, je voulais revenir sur les catégories de l'INSEE. C'est pas que du discours et du bidon, ça a un effet pratique. Ce que je veux dire, c'est que dans les élections professionnelles, tu as 3 collèges, ouvriers, employés, techniciens, gens de maîtrise et cadres. Et quand tu éclates la classe ouvrière entre ouvriers, employés, techniciens, gens de maîtrise, ben tu les éclates en 2 collèges professionnels et tu as aussi un effet idéologique entre ceux qui sont qualifiés d'ouvriers qui se reconnaissent comme ouvriers et ceux qui sont qualifiés d'employés qui se reconnaissent pas comme employés. Et si tu lis les trucs faits par les statisticiens de l'INSEE, quand ils définissent leur classe sociale, pour les employés, ils le disent très clairement. Ils disent, en fait, on n'a pas trouvé de différence entre un ouvrier et un employé. Donc, en fait, quand une profession est majoritairement masculine, on l'appelle ouvrier, et quand elle est majoritairement féminine, on l'appelle employé. Et si tu vas voir les trucs de l'INSEE de l'origine, c'est dit texto. Mais après, ça a un effet idéologique et un effet pratique, pas que sur les élections. C'est que les conventions collectives aussi, les avantages, ils sont déclinés entre les trois collèges. L'autre chose que je voulais dire, faudrait quand même pas qu'on ait trop la religion du CDI. À l'époque où j'étais formatrice dans le privé, je peux considérer que j'étais précaire, mais j'avais une des boîtes où je bossais, j'avais un CDI avec avenant de négocier tous les ans, donc je pouvais jamais prévoir. Et évidemment, c'était le truc pour te faire fermer ta gueule. L'année prochaine, peut-être que j'aurai un contrat à 20 heures par semaine ou peut-être un contrat à 3 heures par semaine. Et là, faut m'expliquer en quoi le CDI, c'est une garantie contre la précarité. Hein.
Sur le CDI, il y avait le CDI intérim. En fait, vous êtes CDIisé par... Et ça, dans la logistique, ils ont beaucoup recours à ça. Juste pour ajouter, maintenant, ils ont inventé un CDI intérim.
Dans les vignes.
Il n'y a pas de garantie.
Dans les vignes. D'ailleurs.
Dans les vignes. Ouais. Et puis, bah, on peut citer aussi l'exemple anglais, on citait tout à l'heure Angry Workers, où là-bas, c'est le contrat zéro heure. Donc, on est en train aussi de péter le contrat de travail classique. Et à Lille, on nous a même appris qu'il y avait une application là où c'est des micro-jobs, en fait. Vous pouvez, comme, je sais pas, c'est le Bon Coin Pro, où vous vous êtes missionné pour 2 heures, 3 heures d'aller faire quelque chose. Et puis voilà, c'est tout. Votre contrat, c'est ça.
On est grosso modo après 18 mois de cellule de reclassement dans la situation que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire la règle des 4 tiers, un tiers de gens chômage, un tiers de gens en précarité, CDD, intérim, etc. Et un tiers de gens qui ont retrouvé un emploi en CDI, mais avec un tiers de salaire de moins.
Bonjour. Moi, je suis dans un groupusculaire qui, comme vous, la classe, la centralité de la production, tout ça. Il se trouve qu'on a des compagnons à Toulouse qui font un petit bulletin qui s'appelle Comité d'usine. C'est des gens qui travaillent dans l'aéronautique. Et là, bon, ils viennent de sortir un nouveau... Enfin, c'est une feuille, hein, c'est recto verso. Ils viennent de sortir un dernier numéro où ils analysent... Enfin, ils donnent des exemples de ce qu'on appelle le lean management, comme esclavage moderne et scientifique. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une enquête, parce qu'en fait, c'est des témoignages d'ouvriers de la métallurgie. La conclusion, alors ça va un peu dans le sens de ce que vous dites, ils disent la méthode du lean management associée à la domestication syndicale, c'est pour le prolétaire le rétablissement de l'esclavage sous une forme scientifique et rationnelle. Travail, travail, et sortez pas de là. Donc, ils se placent aussi dans cette thématique, comme vous, de critique du travail. En fait, le bulletin comité d'usine, donc ça fait maintenant 3 ans qu'ils le sortent. Ils l'ont fait après une lutte qu'ils ont menée en 2022 dans une boîte qui s'appelait Mecachrome, qui était une boîte de l'aéronautique. Vous parliez des NAO, effectivement, en 2022, lorsqu'il y a eu la renégociation des NAO, les ouvriers de Mecachrome se sont mis en grève. Alors les analyses ont été de dire, ah, les gens se mettent en grève spontanément, ils ont débordé les syndicats, etc., etc. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Il se trouve que pendant le Covid, la boîte voulait forcer les gens à faire des heures sup. Il y a eu un moment, Airbus avait demandé aux sous-traitants d'arrêter de travailler, puis après, Airbus s'est remis à produire. Donc, ils ont demandé aux sous-traitants de revenir au travail. Donc, déjà, pendant le Covid, un certain nombre de salariés ne voulaient pas retourner au travail pour des histoires de protection sanitaire, parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas assez de masques, les conditions n'étaient pas réunies. Donc, ça crée déjà un premier sentiment de résistance, j'allais dire, de dire on ne va pas travailler dans n'importe quelles conditions. Et puis, après le Covid, quand Airbus est reparti et que la production s'est mise à redémarrer, donc c'est une boîte sous-traitante, hein, ils ont demandé de faire des heures sup. Et il y a un certain nombre d'ouvriers qui ont dit non, on ne veut pas faire d'heures sup. Et ils ont dit non. C'est-à-dire qu'ils ont posé les outils sur l'atelier, enfin l'établi, et ils se sont barrés. Ils n'ont pas fait de préavis, pas de machin. Ils n'ont juste pas fait les heures sup. Donc il y a eu un petit bras de fer qu'ils ont fini par gagner parce que la direction a compris que, comme c'est des travaux qui sont assez qualifiés, etc., ils n'allaient pas trouver quelqu'un pour les remplacer, quoi. Donc comme la direction avait besoin de ces gens-là, ils ne pouvaient pas les virer. Donc finalement, la direction a abandonné le fait de leur demander de faire des heures sup. Enfin, il n'y a que les volontaires quoi, qui les ont faites. Et ça crée un sentiment dans la boîte de résistance, de dire on peut dire non au patron, même en dehors des syndicats, on peut s'opposer
et faire des choses par nous-mêmes, quoi. Et ça avait créé un peu le sentiment, de l'habitude de discuter, que ce soit dans les vestiaires, etc., etc. Et lorsqu'il y a eu les NAO, comme il y avait cette expérience, si tu veux, où les gens s'étaient déjà mobilisés contre les heures sup, lorsqu'il y a eu les NAO, ben, en fait, le lien existait déjà, quoi. Et les gens ont dit non, les NAO, ça ne suffit pas, on veut plus, etc., etc. Et donc, il y a eu cette lutte qui s'est mise en route. Les syndicats ont essayé de courir après pour essayer de la rattraper, mais ils ont eu du mal. Et ils ont été victorieux. Par contre, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils avaient demandé pour les NAO, après, les choses sont redevenues à la normale. Donc ça rejoint un peu la question que posait la copine là tout à l'heure. Les copains essayent de faire le bulletin pour essayer de continuer à maintenir le lien. Mais on voit bien quand même que c'est difficile. Et même quand il y a des luttes, parce que tout à l'heure vous disiez la lutte, c'est un moment de discussion. C'est vrai. Nous, les copains de Toulouse ont eu cette expérience. Ça a été un moment formidable. Mais après, quand même, les gens, ils retournent à leur normalité, ils retournent à leur vie de familiale, ils retournent à, tu vois. Et c'est ça qui est difficile. Comment maintenir ce sentiment de résistance?
J'ai une question, mais d'abord, je voulais faire un détour pour en arriver à ma question. Moi, à l'époque où je vivais à Toulouse, je faisais partie du collectif classe au moment où le questionnaire a été établi. Et je me souviens qu'on marchait un peu sur deux pieds qui, en fait, s'alimentaient, mais quand même ont aussi fait que la trajectoire du questionnaire pouvait avoir un certain côté un peu flou. Je m'explique. Il y avait un aspect qui était effectivement comprendre et avoir une meilleure intelligence, une meilleure compréhension sur ce que c'est la réalité du travail aujourd'hui. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la partie qui existe aussi dans votre travail et dans votre questionnaire actuellement, et dans ce qui en ressort d'ailleurs dans le livre. Et il y avait, comme on sortait du mouvement de 2016 sur la loi travail et d'une assemblée qui avait existé sur la ville, cet enjeu de dire aussi comment, par ces questionnaires et cette enquête, on peut essayer de comprendre, et ça se rapproche un peu de ce que disait Jenny, des endroits, que ça soit géographiquement dans la ville ou dans certaines zones industrielles, de travail, l'aéronautique, etc., où ce serait intelligent d'être, de bloquer, voilà, qu'est-ce qui est un peu le nerf de la guerre au moment où on cherche des idées de blocage, d'action, etc., surtout dans le cadre d'un mouvement social. Et le fait d'être à la recherche un peu de ces deux questions-là, à la fois ça se complète mais aussi ça se percute, et il y a des choses sur lesquelles pour moi ça nous a un peu perdu dans certains chemins de compréhension. Je dis ça pour dire que j'ai l'impression dans votre livre que vous êtes concentré, vous me direz si je me trompe, sur la première question, à savoir la compréhension de la réalité du travail d'aujourd'hui. Et j'entendais d'ailleurs dans les conclusions qui étaient données là, dans cette espèce de première mouture, des choses sur la question de la fragmentation de cette réalité du travail, qui est un truc qu'on peut avoir en tête comme ça de manière un peu généraliste, mais que là j'ai trouvé plus fine, quoi, forcément liée à des expériences réelles. En même temps, il y a des nouveaux communs, des trucs qu'on n'avait pas forcément en tête, qui sont aussi le fait que des gens font en partie des boulots de machine, mais aussi dans des endroits inattendus, le soin par exemple, vous l'avez dit là, la pression managériale, un certain nombre de nouvelles réalités qui sont transversales, qui font du collectif dans la question du rapport au travail. Mais aussi, et j'ai l'impression que c'est un peu l'absent du débat pour l'instant, il y a quand même la possibilité que les espaces où se réunir pour lutter et pour se mobiliser, en fait, ils soient aussi juste à côté du travail. Et en ça, moi, j'estime que c'est important d'évoquer le mouvement des Gilets jaunes et le fait qu'à la fois, c'était jamais très loin des endroits de boulot d'un certain nombre de gens, la question des zones industrielles, des ronds-points, des abords de la ville, etc., c'est quand même vachement lié à la circulation, aller-retour du travail. Et en même temps, c'est juste à côté, et en même temps, c'est quand même extérieur, et en même temps, c'est pas des enjeux sur la grève, c'est des enjeux sur autre chose, sur la question de la rémunération. Voilà. Et donc, je voulais savoir aussi ce que vous considériez de ça, de les Gilets jaunes, les luttes et le travail, quoi, un peu ces trois trucs-là. Et puis, s'il avait été question des Gilets jaunes dans votre enquête.
Je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que une bonne partie de l'enquête, c'est essayer de comprendre la réalité du travail d'aujourd'hui. Après, il y a quand même cette dimension de savoir où taper. Par contre, ce qui nous interroge, c'est comment se fait-il que, parce que là, en ce moment, les pratiques sont beaucoup développées, même dans une ville encore ouvrière comme Boulogne-sur-Mer, avec beaucoup d'usines et de la production industrielle, c'est pourquoi les gens vont bloquer alors qu'il aurait été tout aussi simple qu'ils s'arrêtent de travailler, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas bloquer le port de Boulogne à 3h du matin, c'est l'équipe de nuit qui sort des usines, qui a stocké tout ce qu'il faut partout pour barricader tout le port et que ça soit mis à l'arrêt. Tu vois, ils vont aller bloquer de 3h à 7h du matin et ils vont rembaucher, l'équipe ensuite va rembaucher, quoi. Il y a de nouvelles formes de conflictualité et de pratiques qui nous interrogent quand même, quoi. C'est pourquoi pas la grève? Pourquoi tu vas aller bloquer ce que tu viens de produire il y a 5 minutes? Et il y a une substitution aussi des pratiques d'action aussi au moment de partage et d'échange. Il y a de moins en moins de moments dans les luttes où on se réunit pour discuter. Alors évidemment, vont être mis en avant les questions de salaire, les ceci et cela, la nature des contrats de travail et tout. Mais à un moment, il faut peut-être en discuter. Enfin, tu vois, peut-être qu'on peut en discuter.
Boulogne, c'est identifié, c'est encore ouvrier, etc. Mais par exemple, moi, à Lille, le blocage est plus si évident, les lieux stratégiques de blocage. Les mouvements sociaux, on va bloquer des sorties d'autoroute, etc. Et en fait, on ne va pas toucher les endroits de production. Et par exemple, nous, on a un mini Rungis autour de Lille qui n'est jamais bloqué. Et c'est vraiment, c'est un impensé. Alors, soit c'est un impensé du milieu anard, autonome, etc., etc., parce qu'il n'y a pas cette connaissance de ce qui se passe autour. Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a des gens qui arrivent, c'est une métropole, ça circule beaucoup. Et on a aussi, du côté syndical, un blocage. C'est-à-dire, on ne va pas toucher, etc., etc. Et par exemple, moi, ce que je proposais dans le livre, alors c'est une invitation, on n'a pas du tout avancé là-dessus, mais c'est une cartographie ouvrière. C'est-à-dire de faire cette enquête et ensuite de cartographier pour rendre visible où sont les entreprises, ça bouge beaucoup, est-ce qu'elles sont sous-traitantes, elles sont sous-traitantes de qui, comment ça se passe à l'intérieur. Et je trouve ça, rendre ça visible et lisible sur une carte, ça peut être un outil. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se fait... le mouvement social, ça y va. Et on est là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y en a qui vont toujours sortir des vieux lieux de blocage tout pourris, où on se fait défoncer parce que voilà, les gens, ils sont pas contents, on bloque des gens qui vont bosser, etc. On va jamais, en tout cas à Lille, toucher là où il y a de la production. À Boulogne, ils le font encore.
J'avais deux questions. La première, c'est sur les syndicats. Dans le bouquin, il y a pas mal de personnes qui sont interrogées, qui sont des syndicalistes, donc qui vous ont répondu. D'autre part, il y a plusieurs personnes dont le contact vous l'avez eu par les syndicats. Et force est de constater que dans les luttes que vous avez évoquées, dans la majorité des cas, il y a des syndicats qui sont dedans, soit qui pilotent, soit qui sont dedans de façon active, ouais, soit qui trahissent éventuellement. Mais en tout cas, les syndicats sont omniprésents dans votre bouquin par plein de biais. Parallèlement, la syndicalisation est au plus bas en France et force est de constater que les gens qui enchaînent des boulots différents à de brèves échéances sont généralement pas syndiqués et que le syndicalisme n'a pas pris le pli de cette précarisation et de cette atomisation des salariés. La question que j'ai envie de vous poser, c'est du coup, quelles seraient les possibilités syndicales de résistance au-delà du syndicat dans la boîte qui est majoritairement des titulaires qui sont là depuis longtemps dans la boîte? Les unions locales, est-ce que ça peut être un lieu où le syndicalisme pourrait se réinventer là-dessus, une nouvelle forme de bourse du travail, etc. etc. Et la deuxième question, vous dites dans le bouquin qu'une piste pour relancer une conflictualité, ce serait de reconstruire un imaginaire pour se libérer des chaînes du quotidien. C'est de fait et dialectiquement partir de la critique radicale du quotidien en question. C'est ce que nous entendons faire avec l'enquête en toute humilité et à notre modeste mesure. Est-ce que du coup la reconstruction d'un imaginaire, c'est-à-dire une pensée positive associée à la lutte et au dépassement du capitalisme, peut être un préalable à un renouveau des luttes, peut-être quelque chose qu'on recherche? Est-ce qu'il faut réussir à imaginer quelque chose de différent pour que la conflictualité revienne dans la classe ouvrière?
Il faut voir ce qu'on entend par syndicalisme et syndiqué. Par exemple, à Boulogne, quand on parle des gens qui sont à 3h du matin en train de jouer avec des palettes et des pneus, c'est des gens qui sont syndiqués ou pas, mais pour ceux qui sont syndiqués, c'est la base, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, à la limite, plus en tant qu'individus qu'en tant que cégétistes ou CFDT, canal historique, comme certains s'appellent chez nous. C'est-à-dire que c'est des gens de base. Et quand ces gens-là se font serrer, le syndicat, donc la chefferie, se désolidarise de ces gens-là en disant « nous, on est des... » On est des citoyens responsables, on est contre la violence, parce que brûler des pneus et empêcher la marchandise de circuler et de faire perdre 200 briques au patronat du quartier de Marais dans la journée, c'est grave et on ne veut pas s'associer à ça. La deuxième, qui est qu'effectivement, comme tu dis, à Boulogne, il n'y a plus de bourse du travail et que pour trouver un endroit pour se réunir, c'est pas facile du tout et qu'il semblerait que les syndicats soient tous... chacun dans leur coin tranquille, peinard, ils ont leur bureau au chaud et que je pense que ça a l'air de leur suffire.
Moi, il y a peut-être le témoignage d'Ali. Donc, en 2014, c'est un des leaders des Redoutables.
c'est la CFDT. Ils s'autonomisent parce qu'ils voient que la CFDT, c'est de la merde. Ils en viennent même à brûler leurs cartes symboliquement, etc., etc. Et lui, après, il va à Force ouvrière pour essayer de continuer cet esprit redoutable qui a été hyper pertinent au début. Mais après, c'est toujours pareil. C'est que moi, j'ai l'impression que cette base syndicale, au début, ça part d'un truc hyper spontané. Vers Baudet, c'est pareil. C'est une toute nouvelle section CGT. Mais après, à la suite, t'es rattrapé en fait par la cogestion. C'est-à-dire que bah, finalement, petit à petit, bah, tu deviens un porte-parole, tu deviens un interlocuteur. Pour moi, la limite du syndicaliste, sauf si c'est un syndicaliste de base, c'est qu'à un moment, le syndicaliste est de toute manière rattrapé par la représentativité, par la cogestion. Et moi, je trouve que c'est limitatif de faire ça.
Par exemple, lors le dernier mouvement contre les retraites, il y a eu plusieurs nuits assez chaudes. 6 ouvriers de la zone de Capécure ont été arrêtés, ils sont passés en justice. Ils n'ont été pas soutenus. Les syndicats n'ont rien organisé, rien orchestré. C'est-à-dire qu'ils ont, sorti le carnet de chèques, ils ont payé l'avocat, démerde-toi et fais le boulot, quoi. Quand j'en ai discuté avec, qui est un camarade aussi, d'une certaine façon un ami, le secrétaire de l'union locale de CGT, qui m'a dit, on leur dit toujours, ils ont le droit de tout faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de se faire serrer. Et là, nous, on n'assume plus.
Moi, je voudrais en rajouter une louche, parce qu'il y a une partie de la classe ouvrière qui est un peu sous-entendue ici, qui sont les immigrés, qui sont généralement dans les boulots précaires que vous avez décrits, et qui sont plus syndiqués que la moyenne des précaires. Je dis ça parce qu'ayant participé à des luttes de logement, la quantité de fois où j'en ai vu déchirer avec fureur leur carte CGT contre la trahison des syndicats, sauf que pour déchirer des cartes CGT, faut que t'en aies quoi. Donc quand ils déchirent leur carte CGT, c'est qu'ils étaient nombreux à être syndicalistes. T'as une partie des gens qui sont syndiqués parce que tu penses que le syndicat est là pour défendre le travailleur, et puis dès que t'as une lutte, tu t'aperçois bien que non. Donc rencontrer des syndicalistes et parler des directions syndicales, c'est pas la même chose.
La question des contrats de branche par rapport aux NAO et à la négociation d'entreprise. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours pas oublier que les contrats de branche ont été une forme de possibilité pour les syndicats de prendre le contrôle de situations de conflictualité qui se généralisaient de façon spontanée un peu partout et qui échappaient au contrôle syndical. En tout cas, dans un contexte comme celui des années 70. L'autre aspect, comment dire, le revers de la médaille est de la faible syndicalisation en France. La France est le pays d'Europe où le niveau de syndicalisation est le plus bas depuis au moins une trentaine d'années. Et pourtant, la France, telle qu'elle est vue de l'étranger, c'est une espèce de pays de cocagne des luttes telles que les autres la voient. Moi, je me demande si c'est justement le faible taux de syndicalisation qui permet un faible niveau de contrôle syndical sur la conflictualité et donc la possibilité des luttes de se mettre en branle plus ou moins spontanément, plus ou moins avec des formes d'organisation à la base. Et ensuite, les syndicats essaient de rattraper, de faire des trucs, des grèves générales, des choses un peu mythologiques, mais qui, la plupart des fois, ne donnent pas de gros résultats.
Alors les gilets jaunes, oui. Alors non, on ne parle pas des gilets jaunes là-dedans. Par contre, on a fait un numéro spécial sur le mouvement des gilets jaunes. On a été impliqué, très impliqué dans le mouvement des gilets jaunes. Alors contrairement à ce qui s'est dit, le mouvement des gilets jaunes localement à Boulogne-sur-Mer, c'est un mouvement ouvrier. Tu vois, alors, globalement, au début, t'avais un petit peu d'artisans. Enfin, ça s'est épuré, mais alors très rapidement, quoi. T'avais, des délégués syndicaux qu'on connaissait très bien et qui avaient changé de gilet. Ils étaient plus rouges, ils étaient jaunes. Et tu retrouvais exactement les mêmes pratiques sur le terrain. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que justement, là, il y avait peut-être beaucoup plus de discussions sur les ronds-points qu'il y en avait, tu vois, dans des AG qu'on n'arrive plus à avoir entre boutiques syndicales concurrentes. Moi aussi, je suis syndiqué. Ce qui m'a scotché quand même et un peu fait mal au bide, c'est que lors du dernier mouvement sur les retraites, il n'y a eu aucune assemblée générale, quoi. Aucune assemblée générale. Et très peu de grèves. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'il y a eu plus de débats lors du mouvement des Gilets jaunes, entre prolos, c'était un mouvement de prolos à Boulogne, que lors du mouvement sur les retraites, où là, c'était une catastrophe, quoi. Il y a eu deux réunions. Je suis allé à la première. pour dire qu'il fallait dégager la CFDT, quoi. Alors, tu vois, bon, évidemment, c'est très mal passé. Je suis pas allé à la deuxième. Mais c'était inutile, ils étaient entre eux. La CGT avait pris le monopole, Sud était derrière, tu vois, parce que bon, il fallait qu'elle ait sur la photo de la Voix du Nord, et puis l'affaire était réglée, et c'était parti pour des semaines de manif train savate, où tu savais que tu avais perdu d'avance. Après, sur les histoires d'enquête, c'est, moi, je sais qu'il y a des syndicalistes de base qui font ce travail-là, et tant mieux, il faut le faire. Mais globalement, moi, les syndicalistes que je vois autour de moi ne font surtout pas ce travail, ne veulent pas en entendre parler. On avait rendez-vous avec des délégués de la CGT sur le port. Deux fois, ils nous ont posé des lapins. Tu vois. Ils voulaient surtout pas discuter. Surtout pas. Voilà. Nous, on veut pas rentrer dans ces histoires-là. Surtout pas, quoi. Et on fait un bouquin parce que justement, on va rencontrer des gens qui sont à la CFDT. On a fait du super boulot avec des gens qui étaient à la CFDT, quoi. Qui étaient en rupture totale, ils se sont fait éjecter, enfin bref, qui étaient beaucoup plus intéressants que les gens de Sud ou de la CGT. On n'a aucun a priori là-dessus. Il y a des gens tout à fait respectables qui sont syndiqués, avec lesquels on fait un bon boulot. Il y a des autres, c'est pas possible, je suis désolé, quoi. Enfin, la question des gilets jaunes, comment elle s'est posée à Boulogne, c'était quand même des prolos, mais qui posaient, comme on l'a dit dans notre réunion, qui posaient la question en termes de revenus, pas de salaire. Ils ont posé la question en termes de revenus, ils s'adressaient à l'État. Alors ça, c'est une question politique fondamentale. C'est pourquoi des prolos, à un moment, s'adressent à l'État. Qu'est-ce que représente l'État dans cette configuration-là? Et nous, comme ce bouquin, c'est pas l'État, c'est le patron. C'est la question du travail, de l'exploitation de la force de travail. Mais après, les Gilets jaunes, on a fait tout un boulot là-dessus. Des débats, des réunions, enfin des émissions de radio. Enfin.
Jouez pas au con avec nous.
C'est pas bien, les comptes sont pas bons. On se torche la demeure avec ton plan de restructuration. Eh le boss, tu veux qu'on te crosse? Viens ici. Où sont les sous? Bouche les issues, on a un souci. Quoi de plus normal que de réclamer son dû? Les temps sont durs et aujourd'hui on parle de fermeture. Y'a du monde sur la sellette. Où sont passées les pépettes? Il se pourrait que ça craque dans les têtes. Une étincelle et ça pète. Donne ma part et arrête ton fils. Rappelle des associés délocalisés avec nos bénéfices. Tu veux nous foutre dehors? Notre oseille s'exporte. Que fort, on va cabosser, bloquer les portes. Le patron a fait le con, l'usine est occupée. Pas de pognon, les portes restent bloquées, le parking assiégé. La barricade s'est montée, choisis ton camp. Y'a que deux possibilités. T'es de quel côté?
Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes en train d'écouter la présentation du livre « Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l'atelier », une enquête ouvrière réalisée par le groupe La Mouette Enragée aux éditions Acracy.
Je ne veux pas du tout rouvrir la question syndicale épineuse, mais je dirais il y a quand même les syndiqués, les syndicalistes et les directions syndicales, quoi, en gros. Et après, ça circule plus ou moins entre ces pôles-là. Mais à chaque fois, pour moi, être syndiqué, c'est pas être syndicaliste. Être syndicaliste, c'est pas être dans la direction syndicale. Et à chaque fois, il y a des enjeux qui sont pas les mêmes. Sur cette histoire de mieux comprendre les diversités que prennent les formes d'exploitation, du travail, qu'est-ce qui s'y joue, etc., que je trouve un enjeu important et intéressant. Et ouais, c'est bien que vous ayez fait le livre et fait la discussion aujourd'hui. Merci. C'est de se dire, est-ce que, justement, que ce soit vous en interne, mais même y compris au sens un peu large, entre camarades, et y compris dans les rapports avec les gens, que ce soit dans la durée ou plus ponctuellement, est-ce que vous avez trouvé que c'était justement un bon outil pour, on va dire, être en mouvement, en questionnement, et avec une logique critique? Voilà, est-ce que ça a permis d'avancer, là, pendant ces 5 ans dans lesquels vous l'avez effectué? Ou pareil, est-ce que c'est un peu trop tôt, il faut attendre de voir les suites? Ça, c'était une première question. Et la deuxième, c'est moins une question qu'une remarque, enfin un questionnement, on va dire. Si on transpose, j'ai l'impression que ce qui peut être dit sur la question du devenir syndicaliste potentiel de gens qui essayent de changer de forme, ça me fait un peu penser à ce que disait le camarade sur son histoire de Toulouse. Transposer, c'est la question de qu'est-ce qui peut se passer dans la durée ou la continuité, une fois que la lutte est retombée, on va dire, et que va y avoir encore des espèces d'acharnés à dire « Ah, comment on continue? Comment on maintient ?» Mais en fait, ça correspond pas à quelque chose de plus généralisé dans la situation. Et moi, c'est un peu ça qui vient m'interroger, qui vient interroger éventuellement, on va dire, notre position de militant. On peut faire une critique du militantisme, on peut faire ce qu'on veut, mais voilà. De gens qui, même en dehors des mouvements, lâchent pas l'affaire, quand bien même on serait aussi mouvementiste. Et de se dire, voilà, quel positionnement il peut y avoir par rapport à ça, justement, quel outil, quelle forme intermédiaire, quelle proposition de réflexion, d'agrégation, de pratique, d'intervention il y a dans ces entre-deux qui sont quand même assez nombreux et assez réguliers. Et voilà, est-ce que justement l'enquête, ça faisait partie de ces réponses? Et peut-être le dernier truc, mais que je vois lié en fait, c'est de se dire, vous avez soulevé un point que je trouve très important et très intéressant et je trouve difficile à appréhender, qui est cette question des formes de refus du travail beaucoup plus en acte et diffus en pratique, sans discours ou sans peu de discours, et en tout cas sans forme, mise en forme, ni communiquée au contraire. Voilà, on les connaît, on peut les redire, mais l'absentéisme, mais y compris des trucs beaucoup plus singuliers, subjectifs, proches de détachement du rapport au travail. Mais si on a une pratique politique qui est adossée au fait qu'il y a un collectif de travail, qu'il y a un lieu, etc., on se retrouve pris en difficulté, sinon en contradiction. Et moi, c'est un des trucs qui m'interroge là, c'est de dire comment on peut chercher des formes de lutte avec les spécificités, on va dire, qui sont les nôtres au sens très large, mais qui correspondent à quelque chose de ça, et qui ne sont pas dans l'espèce de logique managériale politique, militante, de dire « mais si, mobilisez-vous, venez, etc. » Le truc que je trouve exemplaire, c'est cette idée de les gens font grève, ils disent « non mais on n'ira même pas sur un piquet, est-ce qu'on peut pas revenir ici ?» Et voilà, de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, qui maille un peu quelque chose quand même avec ces forces, ces pratiques-là, et qui vient de notre histoire au sens très large, et de ses allers-retours et de ses chicanes. Enfin, qu'est-ce que j'en pense? Bah ouais, je pense que c'est en partie, enfin sur le dernier point spécifique, c'est un peu une histoire qui est toujours en travail, de après un mouvement, qui on arrive, comme tu le disais, sous des formes différentes, à continuer à revoir, avec qui on essaye quand même de faire un espèce de cadre, même très informel, de discussion et de solidarité, même si c'est toujours hyper, on va dire, précaire, au sens de le délitement est jamais très très loin, à quel point il faut accepter, c'est pas grave. Moi, ça vient m'interroger, mais là, ça serait l'autre discussion beaucoup plus longue qui a été soulevée là sur cette histoire de gilets jaunes, patron ou État, quoi, comme source d'argent, on va dire. Moi, il se trouve que je travaille très peu, donc c'est vraiment la question du RSA, par exemple, donc c'est la question du chômage, etc. Les changements, enfin les durcissements successifs du chômage ou la volonté d'imposer des heures d'activité, en tout cas, bon, ces questions-là se posent de la même manière, c'est-à-dire où on trouve les gens, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut raconter, c'est quoi les pratiques possibles et adaptées, comment on tient un discours qui tient compte de la réalité mais qui n'est pas idéologique, etc. Mais je dirais, mais bon, je trouve ça intéressant, bah, que je vous la re-retourne à nouveau et peut-être je la retourne à la salle. Qu'est-ce qu'on en pense? Enfin, qu'est-ce que, voilà, c'est quoi les pratiques en cours, les idées, les fils tirés et qu'est-ce qu'on peut...
C'était sur la question du tiers secteur, c'est-à-dire que des gens qui sont ni dans le privé, ni dans le public, dans le secteur associatif, dans le secteur intermédiaire, dans l'économie solidaire et sociale, dans l'insertion économique, etc. Il y a toute une masse justement de gens qui étaient en dehors du monde du travail ou qui n'étaient pas soumis à des impératifs de rentabilité comme auparavant, qui sont pris en charge aujourd'hui et auxquels on applique complètement les normes de l'exploitation, quoi. On pense notamment au secteur associatif où c'est devenu tellement compliqué tout ça. Pour répondre un peu, aller sur ce que disait Sylvain, sur pourquoi pas se syndiquer et avoir recours à un syndicat pour des choses qui peuvent être basiques, ça peut toujours servir, mais je pense que il y a quelque chose qui est vraiment intéressant à remarquer, c'est que il y a toute une masse de gens qui sont en dehors de même cette culture-là, d'avoir des droits, d'accéder à une technique, d'avoir la légitimité de réclamer quelque chose. Collectivement. Faut voir, par exemple, que la majorité des gens que tu rencontres aujourd'hui au boulot dans le secteur privé, ils savent pas lire une fiche de paye, quoi. Ils regardent même pas les heures, le brut, le net, etc. Ils regardent en bas à gauche. Par contre, il peut y avoir dans des secteurs durs, comme, parle de ce qu'on connaît, hein, l'agriculture et la viticulture, une culture, une coutume, où il peut y avoir un rapport direct à la confrontation avec l'employeur, un rapport direct avec la solidarité concrète et réelle. Et à mon avis, c'est aussi en tant que militant, en tant qu'intervenant dans ce secteur, cette culture-là qu'on doit pouvoir faire vivre et qu'on doit pouvoir aussi transposer et, en tous des cas, peut-être pas politiser, mais en tous des cas, la justifier politiquement. Et je pense que d'ailleurs, cette culture-là, on l'a retrouvée dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout ce qu'on avait, la culture de la palette, la culture du gilet, on a même pu voir que la culture du rond-point et des rassemblements, elle avait trouvé des résonances dans les rencontres de clubs de tuning, dans la ruralité, où c'était des seuls endroits où les gens pouvaient se réunir et discuter. Donc c'est cette culture-là qui en elle-même est subversive et qui peut se politiser. Et c'est cette culture-là d'ailleurs qui est complètement incapable de prendre en charge les syndicats. Ou le syndicalisme en tant qu'idéologie, parce que le syndicalisme, il part sur un truc, c'est on a des droits, ils sont encadrés, et normalement, le patron doit respecter nos droits. Et tout ça, c'est circulaire, quoi. Et à un moment, ben, quand il y en a un qui respecte pas le cadre, ben, ça marche pas. La preuve est, il y a 300 000 licenciements, il se passe rien, que dalle. À part l'autre qui chougne à la radio pour dire « faudrait que l'État intervienne, s'il vous plaît, c'est pas gentil, quoi ». Alors qu'il y a encore quelques années, il y a eu 3 000 licenciements à Compiègne, à Clairvaux, Ils ont retourné à la préfecture, ils ont pas gagné, mais ils ont réussi à gratter des trucs. On parle dans le livre de Aulnay-sous-Bois. On a eu la chance d'y participer de loin. Ils ont quand même réussi à gratter 3 ou 4, voire 50 salaires pour certains. Il y a aussi ce fait d'avoir des cadres qui peuvent être des cadres traditionnels, mais d'y embarquer une culture qui soit une culture de classe, donc une culture d'affrontement, donc une culture subversive et une culture qui s'assume comme étant une culture d'affrontement, quoi. C'est-à-dire d'affrontement sur le lieu du travail, mais aussi d'affrontement dans la société et de subversion dans la société. Je lutte comme je vis comme je lutte, et la vie, c'est la lutte, que ce soit au boulot ou dans le quotidien.
Bon, moi, j'ai bossé dans le secteur associatif tout le temps. Je travaillais en centres sociaux, maisons de quartier, clubs de prêve, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces endroits-là, ça fonctionne avec des précaires, des contrats aidés, des saisonniers, des gens, etc. Et quand la part d'équivalent temps plein et en CDI est réduite à qui y a, quoi. C'est vraiment un minimum. Dans ces endroits-là, pour lutter, c'est pas facile. D'autant plus qu'en généralement, tes employeurs font partie des financeurs même de la structure. C'est-à-dire que quand t'es dans les murs d'une maison de quartier qui appartient à l'Amérique, t'es toi-même embauché d'une association paramunicipale, je veux dire que t'as déjà deux types en face de toi, qui a celui qui paye les sous de l'endroit où t'es, et puis qui te verse ton salaire. Quand à côté de ça, t'es précaire, ou que t'es personnel prêté par la mairie, quand t'es saisonnier, quand t'es en contrat aidé, ouais, voilà, c'est contrat, il y a l'État qui donne, enfin, l'institution qui donne 80%, voilà, de moins en moins, et qui, voilà. Donc, qui donne de moins en moins, et donc le secteur associatif est de plus en plus dans la merde. J'étais le seul syndiqué, et en plus, j'étais syndiqué à la CNT. Faire du syndicalisme dans des conditions comme ça, c'est pas facile du tout.
C'est juste qu'à un moment, il y a des traversées du désert. Et le groupe politique, voilà, faites des groupes politiques, faites des groupuscules, tout ce que vous voulez. Il faut continuer à se voir, parce que le problème, c'est qu'on perd un mouvement social, ça s'éparpille, puis après on se retrouve, puis on se dit, ben, on fait quoi? Mais comme il n'y a pas de travail qui est fait, eh ben, on recommence toujours les mêmes erreurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai la lecture, encore une fois, de mon territoire qui est Lille, où j'en ai ras-le-bol de bloquer toujours les mêmes trucs d'autoroute et on se fait bourriner à chaque fois.
Ce qu'on fait là, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Moi, j'ai souvenir d'un truc qu'on a fait qui me semblait très important dans une période creuse. On avait animé une soirée avec des sidérurgistes d'usine Nord-Dunkerque, enfin d'ArcelorMittal, qui avaient constitué justement un syndicat qui s'appelait un syndicat autonome. Des gens qui sortaient de la CFDT en rupture, enfin, ils s'étaient fait virer de la CFDT. À la fin des années 70, bon, c'était des Mao, des militants politiques établis, enfin bon, voilà, il faut bien poser le cadre. Ils avaient fait un petit film dont ils ignoraient totalement l'existence. Il y avait un film sur eux, le CLT, syndicat de lutte des travailleurs d'usine Nord-Dunkerque. Nous, on a noué le contact 20 ans après, quoi, et on s'est dit, bon, il faut que vous veniez témoigner. Il faut organiser absolument une discussion pour montrer quelle est l'évolution des conditions de travail, même dans les aciéries aujourd'hui, quoi. C'est une soirée où t'avais effectivement quelques anciens qui étaient là. Enfin, de toute façon, le trois quarts était mort déjà depuis longtemps. L'espérance de vie d'un sidérurgiste, tu t'imagines un peu ce que c'est. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et les jeunes disaient, mais attends, nous, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, le boulot. Et ben, moi, je pense que ces moments-là, ils sont hyper importants. Alors, après, chacun est reparti dans son coin. Hein. Ils se sont retournés, ils avaient encore 2 ans à tirer aux aciéries. Ils sont morts, d'ailleurs, depuis. On parle plus du SLT. Hein. C'est terminé, le SLT n'existe plus. C'est quelque chose qui a nourri, tu vois, au moins la réflexion de gens qui avaient en moyenne 20 ans, qu'on connaissait pas, qui étaient là... Et je pense que c'est des choses qu'il faut faire. Alors que ce soit le format, tu vois, d'un film qu'on avait retrouvé, que ce soit le format d'un bouquin, moi je pense qu'il est essentiel qu'on repose la question du travail, de l'exploitation et de la lutte des classes. Tout simplement. Enfin, on n'invente rien, on produit théoriquement rien d'original. Tout ce qui nous semble important, c'est de remettre cette question-là. Alors qu'en face, la bourgeoisie fait tout pour surtout jamais la poser.
Ce que tu dis là, je le partage totalement. Je pense qu'on est pas mal partagé là. C'est une question que je voulais vous poser par rapport justement aux espaces de sociabilité et de solidarité. Et je pense que c'est des choses qui sont essentielles. Enfin, dans les questions que vous avez eues, est-ce que c'est des choses qui ont été apportées? Est-ce que les gens ont amené les choses là-dessus ou pas? Parce que ça me paraît un truc essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y ait une sociabilité, que les gens discutent. Mais pas discuter que de la lutte des classes, mais qu'il y ait une sociabilité et une solidarité.
Grève des EHPAD, aides-soignants qui sont non syndiqués, pas de section syndicale dans la boîte, première grève, date nationale et une grève qui va se poursuivre. Conclusion et retour, mais d'échanges qui pour moi me paraissent essentiels. T'as des nanas qui disaient « qu'est-ce que ça fait du bien de faire grève ?» Tu vois, voilà, par exemple. Et elles n'avaient jamais rien fait ensemble. Trouver le barnum, ramener à bouffer, rédiger un tract à distribuer juste devant l'EHPAD aux automobilistes. Et ça durait une semaine. Et ben attends, enfin moi ça me paraît quand même énorme, absolument énorme. Il y a une espèce de choc avec les syndicats à ce moment-là qui sont venus avec leurs gros sabots, ça s'est mal passé, enfin c'est encore autre chose. Il y a eu de l'échange, il y a eu des choses très...
Dans la permanence après le moment de la lutte.
Non, parce que ça repose sur un petit noyau de professionnels titulaires et autour une myriade de gens en contrat intérim. Et ben une fois la lutte finie, ça a agrégé un peu d'intérimaires. Une fois que la lutte a été finie, c'est terminé. Et la boîte a fait ce qu'il fallait pour que le volant de titulaire, effectivement, se restreigne avec les départs en retraite et que surtout, bon, on a l'amiante avec de la précarité, quoi. Et depuis, pas de lutte. Et ce qu'on veut dire aussi, c'est que beaucoup de gens qui ont témoigné ont changé de boulot. Ça, c'est le propre des travailleurs du privé, de l'exécution. Les gens qui travaillent sur les plateformes d'appel, c'est ce qu'on appelle des boîtes éponges en plus. Alors, quand dans le bassin, tu as un niveau de chômage qui est trop élevé, tu vois, on fait alors la grosse campagne de recrutement. Et alors là, on te propose le CDI immédiatement, quoi, tu vois, pour faire retomber, voilà. Alors, tu j'y discutes avec ces gens-là. Un an ou six mois après, ils sont même plus là. Ils sont devenus serveurs, ils sont... Voilà, donc c'est ça la réalité. Et c'est ça dont on voulait discuter aussi.
Et la question des UL, je pense qu'elle est essentielle là-dessus. Ces espaces, effectivement, il peut y avoir de l'échange, il peut y avoir, même si je suis tout seul et le dernier dans la boîte, machin, ben, je ne serai pas tout seul quand même. Le fait qu'effectivement, il peut y avoir de la formation, et pas forcément de la formation avec une conférence et un machin. Hein, voilà. Et il peut y avoir de la solidarité entre les gens et de la sociabilité. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel. Je suppose que sur Boulogne, il y a des UL. Quand on voit ce que sont devenus les UL sont devenus...
Ah, mais... Ouais, ils ne fonctionnent pas.
Ah bah elles fonctionnent pas parce que les syndicats restent dans leur boîte, grosso modo, enfin on va le faire à l'arrache, mais en gros c'est ça. Et puis parce qu'aujourd'hui, c'est les retraités qui s'il n'y avait plus les retraités, il n'y aurait même plus d'UL la plupart des endroits, quoi. Voilà. Et ça c'est une vraie réalité, mais enfin, moi je pense que ces espaces-là, et ça rejoint ce que vous disiez, sur il faut avoir des endroits, des espaces, des groupes politiques, ou ce qu'on veut, et je pense que syndicalement, l'enjeu des UL est un enjeu essentiel. Et les branches ont quand même énormément... était un handicap à la mise en place des UL. Parce que les droits étaient dans les branches, les conquis étaient dans les branches, et ça pouvait servir des hiérarchies syndicales, mais aussi que ça a cassé complètement la capacité sur les bassins de vie, ainsi de suite. Il suffit de voir ce qui s'est passé à la CGT entre les luttes entre les UD et les fédérations. Hein.
Alors juste avant ça, c'est un enjeu, je voulais dire un truc par rapport aux espaces en dehors du monde du travail.
On voit comment la répression, l'exploitation est de plus en plus dure dans le monde du travail. Mais sur les quartiers, sur la question du logement, sur la question des services publics, sur tout se resserre. Et même sur les quartiers, avoir une salle pour se réunir, c'est genre mission impossible. Et puis, quand tu parlais des UL, bah moi, du coup, j'ai envie de parler des précaires et des chômeurs. On se met où, nous? Parce que là, on est en train de dire, les gens, ils changent tout le temps de taf et tout. Et entre deux tafs, ils vont où? Parce qu'ils deviennent chômeurs, ils deviennent RSistes, ils deviennent... C'est ça, la réalité. C'est 10 millions de précaires aujourd'hui, RSA, précaires, chômeurs en France. Ils sont acceptés dans les UL au même titre que n'importe qui?
Non, mais il faudrait.
Ben voilà, merci, faudrait. Super. Faudrait.
Il y a des endroits où ils le sont. Il y a plein d'UL qui ne fonctionnent pas. Il y a plein d'UD qui ne fonctionnent pas, ça c'est une certitude. Après, il y a effectivement aujourd'hui des UL où il y a les précaires, des chômeurs, y compris des auto-entrepreneurs. Parce que faut aussi se poser la question, voilà, il n'y a pas que le salaire.
Absolument, il y a les auto-entrepreneurs aussi qui, cette espèce de travail au noir déguisé.
Bon, on pourra en parler pendant des heures. On arrête là.
Et si vous voulez, il y a une petite feuille de contact si vous voulez recevoir des infos sur des choses qui sont organisées par le...
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nous voilà nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias. Là.
Ça avait des allures de fête qui dégénèrent.